Donc on va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière. Comme j'avais dit, c'est un message que j'ai eu sur le cœur pendant plusieurs mois. Et puis plusieurs personnes m'ont dit, mais il faut le donner. Donc bon, voilà, je l'ai fait. Mais on n'a pas terminé. Donc je vais juste, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine d'avant, je vais juste résumer, mais alors très rapidement, ce qu'on a dit. On avait commencé donc... Enfin, ce qui m'avait décidé aussi, c'est quand on fait la théologie de l'AD, page 552, pour ceux qui sont dedans, il parle des charismata, des dons, qui sont à la fois les dons surnaturels, charismatiques, prophétie, miracle, guérison, langue, etc. Et aussi, et ça on n'y pense peut-être pas assez, les talents naturels que Dieu a donnés aux gens, mais qui sont utilisés par le Saint-Esprit. Alors, il y en a plusieurs qui sont cités dans la Bible, hein, service, présidence, assistance, miséricorde, libéralité, mais il y en a beaucoup. On va voir dans le développement de ce message qu'il y en a énormément. 1 Corinthiens 12, 7 nous dit « Chacun reçoit le don », et j'aime beaucoup cette traduction, « le don de manifester l'Esprit ». Ce n'est pas le don d'étaler ses talents, c'est le don de manifester l'Esprit. Au travers de tout, comme dit la Bible, tout ce que vous faites, on va le lire après, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Le don de manifester l'Esprit. Et ça m'a donné à réfléchir ça. Quand j'ai un talent, quand j'ai un don, c'est pour manifester l'Esprit de Dieu. C'est important. En vue, ce n'est pas pour me manifester moi, ou me faire du bien, même si c'est un des effets secondaires, ça fait du bien. Mais c'est quand même la base, manifester l'Esprit de Dieu. En vue du bien de tous. Pas seulement d'un petit nombre, comme disait tout à l'heure Bruno, Dieu ne fait exception de personne. Le bien de tous. Donc il précise dans ce texte qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et ça c'est important parce que nous on est humains et on a toujours tendance à faire une hiérarchie. Et pour Dieu il n'y en a pas. C'est manifester l'esprit qui est important. Et il n'y a pas de hiérarchie dans les charismes et il n'y a pas de hiérarchie dans les modes d'action non plus. Le problème, c'est qu'on est humain, et comme je vais le citer après d'ailleurs, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et c'est pour ça que le titre de mon message, c'était « Les ministères cachés, invisibles, les services secrets ». Ministère, ça veut dire service. Hein. Voilà. Par contre, il est important de se rappeler que, quels que soient nos dons, nos talents, nos charismatas et tout le reste, nous sommes tous ambassadeurs de Christ. Et ça, c'est pas facile, parce que nous faisons partie d'un autre royaume. Et à ce royaume, on doit la loyauté, l'obéissance, la fidélité. Et je pense que c'est un des sujets de prière. Seigneur, aide-moi à réaliser partout où je vais, dans tout ce que je suis, dans tout ce que je manifeste. Aide-moi à manifester que je suis un sujet d'un autre royaume, tout en vivant dans ce monde et en s'intégrant dans ce monde. D'ailleurs, vous savez, les non-chrétiens ne s'y trompent pas. Ils ont vite fait de deviner qu'on est chrétien en fonction de notre comportement. Et s'ils ne le devinent jamais, on peut se poser des questions. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Jésus a dit, un verset qui m'a pas mal fait réfléchir aussi, « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Curieux, hein ? Il n'y a pas de terrain neutre avec Dieu. Ou j'assemble avec lui, ou d'une manière ou d'une autre, je disperse. Ça m'a souvent fait réfléchir, ça. Il n'y a pas de terrain neutre. Je ne peux pas dire, ah mais moi, je suis entre deux, je suis suisse. Non, il n'y a pas de Suisse avec le Seigneur. Il n'y a pas de terrain neutre. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, il y a un terrain où, voilà, no man's land, où on peut être chrétien, et puis, voilà. C'est un peu, c'est souciant, hein. Et cet appel d'ambassadeur va se concrétiser alors dans trois domaines, évidemment, dans notre vie de famille. Plus important, hein, vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'était l'endroit le plus proche. Nos familles, et c'est souvent là que c'est le plus dur, parce que les gens nous connaissent très bien. Ils connaissent tous nos défauts, nos travers, nos failles. Ouh, être un ambassadeur de Christ dans la famille, c'est un challenge. Dans notre vie d'église, c'est aussi quelquefois un peu difficile, parce que les gens aussi... finissent par nous connaître et connaître tous nos petits défauts et nos gros défauts. Et puis dans la société, c'est quelquefois plus facile dans la société. Ça dépend des cas. Alors, On avait parlé des services dans la vie civile. Des gens peuvent exercer des ministères très, très en vue, etc. Donc, c'est forcément cela qu'on va regarder. Mais je citerai le verset, c'est 1 Samuel 16:20. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, on avait développé un petit peu les services visibles dans la société, etc. Et puis, on était arrivé au ministère caché. Les ministères qui ne se voient pas, qui n'impressionnent personne, que même certains ne soupçonnent même pas. Et pour quelqu'un qui viendrait dans l'Église, il n'aurait pas l'ombre d'une idée que Pierre, Paul, Jacques puisse avoir un ministère aussi important aux yeux de Dieu. Je pensais aussi à ce verset ce matin, « Ne vous lassez pas de faire le bien. » Parce que pour les ministères, visibles ou cachés d'ailleurs, il y a un problème, c'est la lassitude. Dire « Mais Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé, et t'as vu ce qui se passe, et t'as vu, etc. » Ne vous lassez pas de faire le bien. Et dans les moments difficiles, c'est un verset qui revient souvent à mon esprit, « Ne vous lassez pas de faire de bien. » Et combien de ministères, visibles ou non, se sont lassés ? Parce que ce n'est pas toujours facile de garder une persévérance à faire ce qui est juste et bon. Donc ne nous lassons pas. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce message, pour que les ministères cachés de notre Église soient encouragés. Il y en a beaucoup dans notre Église des ministères cachés. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. Et vous pourrez répéter aux autres d'ailleurs. Tiens, j'ai entendu parler de toi, sans donner le nom. Parce que, oui, il y en a beaucoup. Et j'ai dit la semaine dernière que ces ministères cachés dans les églises, c'est ceux-là qui font circuler le sang. Alors, comme toutes les comparaisons, hein, elle a ses limites. Hein. Mais, comme toutes les paraboles, hein, elles ont leurs limites. Mais j'ai vu ça comme ça. Ça fait circuler le sang dans l'église. Sans ces ministères discrets, l'église est sans vie, elle est lugubre et froide. Et là, c'est assez facile. J'ai donné un exemple. Je suis désolée, mais de temps en temps, il faut quand même dire les choses comme elles sont. J'ai expliqué la semaine dernière que j'étais tellement heureuse de voir que l'église réformée de Mantes, il y a plusieurs années, avait reçu un pasteur génial, vivant, plein de peps. Et j'étais passée dans la rue un jour où ils étaient là et j'avais félicité. J'ai dit, on prie pour vous, ça fait des années que je prie pour cette église. Parce que pendant un temps, je priais avec la femme du pasteur précédent. Et j'étais contente de voir que cette église allait revivre. Et elle a revécu. Elle s'est remplie. Et c'était un bonheur. Parce que quand une église est bénie, les autres églises sont bénies. Et donc, on est heureux de vivre au milieu d'autres églises qui prospèrent. C'est ce que Dieu veut. Et Andrew, il a fait son temps et puis il a eu une promotion sur Paris, il est parti. Maintenant, il est pasteur en Angleterre, il va très bien. Mais l'église, en quelques mois ou 2 ans peut-être, est revenue à son point de départ. Et je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi ? Eh bien, parce que l'église ne dépend pas de son équipe pastorale. Merci Seigneur. Elle dépend des ministères cachés de chacun. Et si dans cette église, il y avait peu ou pas, là, je ne suis pas là pour en juger, de ministères cachés, ça ne pouvait pas continuer. D'où l'importance de ces ministères cachés, de ce que vous, vous pratiquez régulièrement pour honorer le Seigneur en tant qu'ambassadeur de Christ. Et on va en développer ça un petit peu plus. On a parlé des faces cachées des ministères en vue, parce que oui, même les ministères qui sont en vue, qui sont visibles, ils ont une face cachée. Et si la face cachée n'est pas là, ce sera problématique. C'est la prière, le travail, la lecture de la Bible, lecture consciencieuse de la Bible, l'écoute de Dieu. S'il n'y a pas cette face cachée, les ministères en vue, un jour ou l'autre, auront des problèmes. Et même s'ils n'ont pas de problème, c'est la face cachée de ces ministères qui va faire la différence entre la prestation de service et le service pour Dieu. Alors je sais que c'est un de mes dadas ces derniers temps, quelqu'un me l'a fait remarquer, mais c'est vrai, et je le pense vraiment, on peut rentrer dans la prestation de service. Voilà, mon rôle c'est, alors je veux dire n'importe quoi, l'école du dimanche, je dis ce, ça, et le faire dans un esprit de prestation de service. Hein, et maintenant j'ai terminé, je pars, et je cite souvent l'exemple de ce pasteur qui était extrêmement gentil, mais qui était vraiment dans la prestation de service. Et un jour, un soir, il se trouvait dans les locaux de l'église, peut-être dans son bureau, et la sœur qui faisait le ménage lui demande, elle avait un gros souci, un gros poids sur le cœur, est-ce que vous pouvez prier pour moi ? Je précise qu'il n'avait pas de train à prendre, il n'avait pas d'horaire, mais son service était terminé. Un brave homme, un homme qui aime le Seigneur. La prestation de service. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur a un cœur pour nous tous. Et c'est la face cachée du ministère qui va faire la différence entre la prestation de service et le service pour le Seigneur. Il y a aussi les services matériels. Alors c'est marrant parce que souvent, on a tendance à penser que les services matériels, c'est moins important. Et puis, c'est pas visible. Hein. Bon, si, c'est visible. On n'a qu'à voir si Isabelle et son équipe ne font plus le ménage pendant 2 ou 3 mois. On verrait vite que c'est un ministère visible. Mais on a précisé la semaine dernière, ministère visible, la décoration, etc. Mais qui peut se faire aussi en manifestant l'Esprit de Dieu. Et j'ai cité l'exemple de cette dame qui cirait les chaises dans les églises d'autrefois, celle qui avait des petits trous là, et qui priait pour chaque personne qui allait s'asseoir sur cette chaise. Ministère caché, d'un ministère qui lui était visible. Puis ça sent la cire en plus dans ces églises-là. Donc dans ces ministères, plus ou moins visibles, il y a un énorme sacrifice de temps et d'énergie. Je pense aux jeunes de cette église, je ne veux pas les oublier, même si là, la plupart sont à l'école du dimanche. Mais si l'église est... Vous avez tout le placo, là ? Et la peinture ? Ah, mais Emmanuel, tu étais là. C'est les jeunes qui ont fait beaucoup de travail ici, qui ont sacrifié leurs vacances, leurs week-ends. Hein, Marie-France s'en souvient. Pour faire ça, les joints de placo. Hein. Mes enfants sont tous doués pour faire les joints de placo. Passer les week-ends et les vacances. C'était un service pour le Seigneur. Il se voit d'ailleurs maintenant. Même si maintenant, il va peut-être falloir refaire un peu. Et l'important dans tout ça, on avait dit, c'est pourquoi on le fait et pour qui. Et j'aime beaucoup ce verset que j'ai cité la dernière fois. Tout ce que vous faites. Tout. Ça veut dire tout. Tout ce que vous faites. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui nous soutient dans les difficultés. Quand il y a un manque de reconnaissance, ce qui arrive parce qu'on est humain. Quand il y a une lassitude, se dire, mais Seigneur, de toute façon, je le fais pour toi. Et on parlera tout à l'heure des récompenses que Dieu nous donne. Mais déjà, cette récompense, pour moi, dans le cœur, de savoir que le Seigneur est satisfait de ce que j'ai fait. Ça, c'est important. Le Seigneur se réjouit pour les fleurs qui sont déposées, pour le ménage qui est fait, pour tout ce qui est donné, un encouragement, etc. Mais ça, on va en parler plus tard. Donc, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ensuite, on avait parlé des dons cachés, non révélés. Non révélés parce que la personne ignore qu'elle les a. Ah, mince, c'est dommage ça. Quelquefois les autres l'ignorent aussi, parfois les autres le voient, ça aide. Et là j'ai regardé un petit peu dans la Bible des exemples de gens qui ont ignoré leurs dons, soit parce qu'ils ne voulaient pas les voir, soit pour d'autres raisons. Ce n'est pas le don qu'elles voulaient, peur de l'exercer, la personne se sent au-dessus, quand même, je ne vais pas faire ça, ou en dessous, oh, je suis incapable. Elle a peur de l'orgueil. Ou peur, par contre, de se trouver humilié. Vous voyez, il y a des tas de raisons pour lesquelles nos dons, cachés ou non, ne vont pas pouvoir se manifester. Alors, quelques exemples bibliques, rapidement. Joseph, mon préféré. Joseph se sent supérieur à ses frères. Comment est-ce que Dieu va pouvoir utiliser son don d'intendance ? Eh bien, il le fait passer, il fait développer ce don dans le cadre de l'esclavage et de la prison. On va peut-être oublier cette histoire. Formation de son caractère, formation de sa personnalité. Mais après, il a pu utiliser son don avec une énorme sagesse. Et sans donner ses frères à manger aux crocodiles, ce qui est pas mal. Moïse, terriblement conscient de ses faiblesses, lui, tout le contraire de Joseph. Ouf, j'ai tué un Égyptien, j'ai gaffé. Lui, il ne se sent pas du tout à la hauteur et je ne parle pas bien. Il discute même un petit peu avec Dieu, hein, buisson ardent. Mais finalement, il obéit. Aaron et Myriam, voilà, c'est un autre problème. Hein. Ils avaient reçu des dons merveilleux. Hein. Le chant de Myriam à la sortie d'Égypte, c'est une merveille, vous pouvez le lire 10 fois. C'est, eh ben, Myriam, pas si clair que ça. Hein. Ils veulent les mêmes dons que Moïse. Et en nombre 12, ils vont dire, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? Oh ! Pourtant, ils avaient de quoi se réjouir, Aaron quand même, grand prêtre. Oh ! Bon, chacun ses problèmes. Samson, ah Samson. Samson a été voulu par Dieu, Dieu lui a donné des dons rares, extraordinaires, spectaculaires. Il était plutôt gâté, Samson, hein ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il profite de ses dons pour faire uniquement ce qui lui plaît. Il avait été appelé pour être un libérateur d'Israël, pour être un chef de l'armée, un leader du peuple, un protecteur du peuple. Il va faire que ce qui lui plaît avec ses dons. Gédéon, tout le contraire. J'aime bien mettre les deux. Quand je faisais les cinquièmes à Notre-Dame, je mettais souvent les deux face à face. Gédéon. Ah ben Gédéon. Ah non, non, mais moi je suis de la parenté la plus pauvre et je suis le plus petit. Donc, vaillant héros, c'est à qui tu t'adresses ? C'est pas moi. Seigneur, il y a erreur. Le don de chef d'armée, c'est vraiment pas pour moi. Je ne peux pas être un vaillant héros. Ah, mais Dieu l'a quand même obligé, hein ? Et puis il a été dur quand même avec lui, hein, quelque part, hein. Il lui a supprimé toute une partie de l'armée pour être sûr que la gloire reviendrait à Dieu. Waouh. Esther, elle a peur d'intercéder. Il faut que Mardoché insiste, au péril de sa vie. Hein. Alors voyez, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres exemples. Mais pour ceux qui n'ont pas encore découvert leur ministère dans l'Église, caché ou visible, ou très visible, ou peu visible, je citerai Ecclésiaste 9:10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et demande au Seigneur à quoi il t'appelle, en chemin, en faisant quelque chose. Parce que demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi, en se croisant les bras, non, ce n'est pas la solution. Je pense qu'on touche un petit peu à tout. Et puis, on regarde. Et parfois, Dieu a des façons curieuses de procéder. Demande au Seigneur à quoi il t'appelle, il répondra. Alors, il peut répondre par des circonstances, une voix intérieure, des talents naturels, de dire, tiens, en fait, c'est quoi mes talents naturels ? Sa parole, les autres ? Dieu répond. Et un petit exemple où Dieu m'a vraiment surpris. J'arrive un jour à la mairie, j'étais une nouvelle habitante. La femme qui était maire était une femme remarquable. Elle est toujours là d'ailleurs, elle n'est plus mère. Et je vois qu'elle est en train d'empaqueter des cadeaux de Noël. Et je me suis permis de lui dire, mais c'est pourquoi vous faites ça ? Elle dit, bah, tous les ans on fait un Noël pour le village. À l'époque, on n'était que 600 habitants. Il y avait 80-90 enfants. Elle dit, j'emballe chaque cadeau. Je dis, oh, c'est joli, c'est bien, mais je dis, vous avez des tas d'autres choses à faire. Oui, je dis, écoutez, mes parents sont là cette semaine. Ils peuvent garder les enfants. Je vais venir vous faire vos paquets, que vous puissiez vous consacrer à votre comptabilité. Parce qu'à l'époque, les mères, ils faisaient tout, hein, tout. Maintenant, ça a changé beaucoup, beaucoup. On ne fait plus grand-chose. Mais à l'époque, ils travaillaient énormément. Et je dis, écoutez, je vais vous faire vos paquets. Puis c'est mieux quand même, parce que moi, comptabilité, ce ne serait pas mon truc. Donc consacrez-vous à ça. C'était l'époque où hein, on fait les comptes pour la fin de l'année. Et elle était ravie. Et puis je l'ai oublié, ce qui s'était passé. Mais complètement oublié. Et quelques mois plus tard, elle me demande un rendez-vous. Elle vient me voir à la maison. Je n'avais pas l'ombre d'une idée. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'il y a un problème dans notre permis, puisqu'on venait de s'installer ? Mais non, elle m'avait demandé d'être adjointe. Adjointe tout de suite, mais j'y connais rien. Parce que, voilà, Dieu avait utilisé ça. Moi, je ne pensais pas que j'avais des dons pour être adjoint maire, hein, franchement. Ben, j'ai appris sur le tas, avec l'aide du Seigneur. Mais voilà, je crois que ben, on fait ce qu'on a sous la main. Et puis après, Dieu dirige. Même si ce n'est pas du tout dans ce que j'avais prévu, hein, franchement. Surtout quand il fallait recopier les budgets. Moi qui ai horreur des chiffres. Mais l'important, c'est l'esprit dans lequel on sert. Même si c'est invisible. Même si personne ne s'en aperçoit jamais. C'est le cas le pire. Mais c'est l'esprit dans lequel on sert. En sachant que ce qui compte, c'est notre relation avec Dieu. Le faire connaître, l'honorer, manifester l'amour de Dieu aux autres. C'est ça l'important au travers de nos dons, manifester l'esprit, comme dit la Bible. L'idée de se mettre au service des autres, avec les dons qu'on a reçus, les dons spirituels ou les talents humains, c'est important. Et voici quelques exemples qui sont pratiqués dans notre Église. Parce que si je fais ce message, c'est aussi pour vous encourager. Et il faut savoir reconnaître ce qui est fait. L'aide scolaire, moi j'en connais pas mal, hein, avec les livres par exemple. Vous voyez quelquefois toute une grappe d'enfants avec des livres autour d'Hélène. Ben oui, pourquoi pas ? Ça leur fait du bien. Et ça envoie un message aux enfants. Le message est clair. Ici, s'aimer les uns les autres, ce n'est pas un mot. C'est tout. Comme dit en anglais, I care. Je me soucie de toi. Tu vas réussir. C'est pas énorme. Peut-être c'est pas aussi ronflant qu'une prophétie sur le monde entier. Mais c'est terriblement important. Le message que les enfants enregistrent, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui s'inquiète de moi. On pense tout ça aux enfants de l'église, mais parfois il faut le manifester. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a des gens qui aident en maths, alors, je ne vais pas les nommer pour ne pas les mettre mal à l'aise, en anglais, en informatique, etc. S'aimer les uns les autres. Vous savez, il y a un monsieur, M. Kuhn, qui a écrit un livre qui s'appelle Les uns les autres. Alors, ce n'est pas un livre pour les solitaires, hein. Mais ça parle beaucoup. Ces services discrets, ça fait circuler le sang dans le corps de Christ. Vous savez, je me plais à comparer ces gens-là aux globules rouges. Alors, n'allez pas trop loin non plus dans les comparaisons, hein. Mais simplement, ils véhiculent l'oxygène dans tout le corps. Matthieu 10, verset 42. Et vous verrez de quoi il s'agit. L'accueil des visiteurs, les conversations, les invitations, et même les visites de Paris. Pendant un temps, nos jeunes faisaient visiter Paris aux jeunes Américains qui venaient en visite. Et oui, ça faisait partie de cet accueil. Et je me souviens qu'il y avait des professionnels dans ce domaine. Je peux en profiter, elle n'est pas là. C'était Claire et sa sœur, hein, qui étaient les professionnels. Oh, Sonny aussi un petit peu, qui faisaient visiter Paris aux visiteurs. Mais c'était un accueil. L'aide en fonction de la profession. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'Hélène, qui est institutrice, bien sûr. Mais on peut parler aussi de Noëlla, qui aide beaucoup dans le social. Elle n'est pas là, Noëlla, je crois. Donc, je peux en parler. Ça ne mettra pas mal à l'aise. Maggie, dans le conseil pour les enfants. Isabelle, qui a eu cette... formidable, on ne fera pas lui dire, formidable idée d'accompagner Paola pour cette visite qu'elle avait à faire à l'hôpital. Paola fait des progrès en français, mais ce n'est pas évident quand vous êtes dans un pays étranger d'aller pour une visite importante à l'hôpital. Ce n'est pas grand-chose, et personne, j'imagine que personne ne le savait. Mais je ne le dis pas pour lui faire enfler les chevilles, en plus elle n'est pas là, c'est magnifique. Mais voyez ces petits services, l'oxygène de l'église. L'oxygène de l'église. Parce que, à côté de ça, elle a prié aussi. Ce n'était pas simplement un service social. C'était aussi un accompagnement dans la prière et dans la foi. Tous ces ministères, services sont peu visibles et réjouissent vraiment le cœur de Dieu. Et ce n'est pas des mots. Je voudrais juste vous faire imaginer un petit peu. Vous avez deux enfants près de vous. Alors les vôtres, vos petits-enfants, neveux, voilà, voisins, des enfants que vous aimez beaucoup. Il y en a un qui est extrêmement triste, extrêmement malheureux, et l'autre a envie de jouer avec lui. Et vous observez la scène, et puis vous êtes un peu embêté parce que l'autre, on voit bien qu'il a quelque chose sur la patate là. Et vous constatez que le petit-enfant qui est déçu de ne pas pouvoir jouer, au lieu de partir ailleurs pour jouer avec un autre, il va s'asseoir à côté de lui. Il va le consoler, il va l'écouter, il va lui offrir peut-être un petit cadeau. Vous savez, les enfants sont comme ça, le marron qu'il vient de ramasser dans la cour de l'école. Et qu'est-ce que vous ressentez dans ces cas-là? Oh, il est idiot ce gamin. Oh non, qu'est-ce que vous pensez? Vous dites, ouah, c'est trop beau. Et les plus sentimentaux d'entre nous vont avoir la larme à l'œil, parce que ça touche le cœur, ce genre de comportement. Eh bien, imaginez ce que Dieu ressent quand vous, vous faites ce genre de démarche. Pour quelqu'un, chrétien ou non chrétien. Imaginez son cœur. Très important. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu a un cœur. On dit toujours, c'est un père avec un cœur de mère. Et chaque fois que vous faites ce genre de choses, moi, je ne sais pas, je le ressens, je ne sais pas pourquoi, mais la joie dans le cœur de Dieu. Waouh ! Et j'avais même envie de dire, c'est une plaisanterie, bien sûr, prenez pas ça au premier degré, le Seigneur qui dit, ah, ça c'est bien mes enfants. Parce que vous savez, dans les familles, c'est toujours nos enfants quand tout va bien. C'est les enfants de l'autre quand ça ne va pas. Voilà, ce sont bien mes enfants. On a vu l'implication et les sacrifices de tous ceux qui ont suivi les séminaires de relations d'aide. Présence, c'est important aussi. Hein, c'est Jack Effort qui nous avait fait remarquer ça. Vous savez, les gens font des sacrifices pour venir à l'église, des sacrifices de temps, d'énergie, des sacrifices sur leur emploi du temps. Oui, Dieu le voit. Sacrifice de, par la présence, le temps, l'énergie, les traductions, l'hospitalité, les transports, la disponibilité. Tant de services qui sont peu visibles, mais Dieu les reconnaît. Les autres peuvent ne pas les remarquer, mais Dieu n'oublie pas ces ministères peu visibles. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais ils ont une récompense. Et cette récompense sera donnée à tous ceux qui ont servi le Seigneur de tout leur cœur, aussi bien pour des toutes petites choses que pour des grandes. Et j'oserais même dire que la récompense sera la même. Ce n'est pas la grandeur de la tâche. L'évangéliste qui va donner de tout son cœur un message devant 10 000 personnes, comme faisait Billy Graham et bien plus, et celui qui a toute sa vie encouragé, béni, fortifié les autres, je crois que la récompense sera la même. La joie dans le cœur de Dieu. Et quelle sera la récompense? La nature, j'en sais rien. Mais la Bible dit, et là on a relevé quelques textes, 1 Corinthiens 3, versets 12 et les suivants, à propos des matériaux de construction qu'on a utilisés. Et là, attention, parce que les consolations humaines, ce n'est pas toujours de l'or et de l'argent, mais les consolations par l'esprit, conformes à la parole de Dieu, celles-là, c'est de l'or et de l'argent. Matthieu 5, 12, « Votre récompense sera grande dans les cieux. » Il s'agit des gens qui ont été persécutés. Hébreux 11, 26, Apocalypse 11, 18, où il parle de récompenser les serviteurs. Et on est tous serviteurs de Dieu. Apocalypse 22, 12 aussi. Donc, il n'y a pas qu'un ou deux textes qui parlent des récompenses. Elles sont là, elles sont pour tous ceux qui servent le Seigneur. Il ne faut pas l'oublier. Même si c'est vrai qu'on va dire, moi je dis souvent, oh, moi je ne travaille pas pour les récompenses. Ça me fait tellement plaisir de faire ce que Dieu me demande, mais en général. Mais c'est vrai, la récompense, elle est là, elle est promise. Et il ne faut pas non plus mettre un trait dessus. Alors, on a cité beaucoup de ministères qui sont plus ou moins visibles, des faces cachées, etc. Alors maintenant, les ministères complètement cachés, ils font quoi? Alors, on va en regarder deux aujourd'hui. J'espère respecter à peu près les temps. Il y a ceux que j'appellerais les globules rouges, donc qui transportent l'oxygène et assurent la vitalité de l'Église. Ils sont nombreux dans notre Église. Et je crois que c'est pour ça que notre Église a réussi à vivre, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on a pu subir au fil des années. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a pu garder aussi une certaine vitalité, au lieu de tomber dans l'amertume. Et voilà. Ils sont nombreux. Et Dieu veut vous encourager ce matin. Tous ceux, il y en a que je connais, il y en a que peut-être je ne connais pas, mais voilà, vous vous reconnaîtrez. Ils sont nombreux et Dieu veut les encourager. Alors ce sont ceux qui prient les uns pour les autres. Et prier selon l'esprit, c'est-à-dire pas « Seigneur, je veux que cette personne devienne impeccable dans tel domaine, je veux que cette personne soit… » non, ce n'est pas tout à fait le genre de prière, mais « Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton esprit rayonne au travers de cette personne, qu'elle puisse être vraiment quelqu'un qui glorifie ton nom, ambassadeur de Christ. » Des gens qui encouragent, et non pas en disant « T'inquiète pas mon vieux, tu vas y arriver, tu sais, il n'y a pas de raison. » Non. Mais la parole de Dieu dit, l'épreuve produit, vous connaissez le verset, voilà. Des gens qui transmettent la parole de Dieu. Et alors là, le plus beau, c'est quand ils ne s'en rendent pas compte. Là, j'aime. Et parfois, des gens qui, parce que nous aussi, on a besoin d'être encouragés de temps en temps, et il y a suffisamment de ministères dans l'Église pour nous encourager. On n'a pas besoin nécessairement d'aller pleurer chez d'autres pasteurs. Il y a des ministères d'encouragement pour nous aussi dans l'Église. Et combien de fois, l'un ou l'autre, vous avez utilisé un mot, une phrase qui a fait tilt? Prophétique, oui. Le mot est grand, mais prophétique, oui. Et ça, c'est beau. Parce que les encouragements qui viennent droit du cœur du Seigneur, cela y reste dans le cœur. Et c'est très très important. Donc transmettre les paroles de Dieu. Parce que vous savez, les paroles humaines, on peut en décliner des centaines. N'importe qui dans le monde peut vous faire ça. Mais une parole qui vient du cœur de Dieu. Ça fait tilt tout de suite. Et là, la bouffée d'oxygène qui arrive. Bah, tiens, voilà ce que je disais. Les globules rouges transportent l'oxygène. Tous, on est appelés à ça. Mais il faut reconnaître que pour certains, c'est un mode de vie. Leur ministère caché. Ils ne cherchent pas à être vus ou félicités, mais je crois que le Seigneur m'encourage aujourd'hui à parler de ce ministère précieux parce qu'il est porteur de vie dans l'Église. Et plus les membres de notre congrégation exerceront ce ministère, plus notre Église sera solide. à condition de l'exercer selon Dieu et pas selon notre sagesse humaine, quels que soient les changements et les circonstances. Donc moi, j'ai bon espoir pour notre Église. C'est vrai que nous, on se fait vieux et que les choses vont changer, les circonstances changent, etc. Mais je pense qu'aussi longtemps qu'on aura ces ministères, ces transporteurs d'oxygène, l'Église sera en sécurité parce qu'elle dépendra du Seigneur et pas de l'équipe pastorale. Je ne parle pas ici des gens... Alors attention, je sais qu'il y a certains pasteurs qui nous ont parlé de ça. Je ne parle pas ici des gens qui ont autour d'eux un groupe de fans qu'ils contrôlent. Comme un peu une église virtuelle, vous savez, pouce en l'air, machin, je ne sais pas trop comment ça marche, tous ces trucs-là. Moi, je ne sais pas, mais j'ai vu. Alors, Dieu s'occupe de ces gens-là, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je ne sais pas ce que Dieu en pense, ce n'est pas mon problème. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de gens qui, ponctuellement, vont servir le Seigneur chaque fois que le Seigneur leur montre. Pas des gens qui cherchent à créer autour d'eux un groupe de fans. Et ça, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas la mienne. Mais voilà. Soyons fidèles dans ce travail de globules rouges. Les globules rouges dans l'Église se sont chargés d'oxygène avant de pouvoir en donner aux autres. Et s'ils ne sont pas chargés d'oxygène, ils ne pourront pas en apporter, c'est évident. Et c'est quoi ? Eh bien, ils ont une bonne relation avec le Seigneur. Et ça se sent, vous savez. Ils sont à l'écoute de son esprit et non pas de leur raison. Vous savez, il y a des gens qui sont très logiques, très raisonnables et qui vont vous décortiquer votre situation. Magnifique. Mais ce n'est pas exactement ça dont je parle. C'est vraiment à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Ils sont imprégnés de la parole de Dieu. Et pour ça, ils la connaissent. Comment voulez-vous citer des versets que vous ne connaissez pas ? Ça pourrait arriver, mais ce serait vraiment miraculeux. Ils ont un grand amour pour Dieu aussi et pour les gens. Et c'est ça qui en fait des bons globules rouges. Et je sais que vous êtes nombreux à être comme ça dans l'Église. Leur motivation, ce n'est pas que... voilà. Ça touche leur ego, mais c'est que l'autre personne se rapproche de Dieu et entre dans ce que Dieu lui demande. Et quelquefois, ce que Dieu lui demande, ce n'est pas du tout ce que nous, on voudrait. Vous savez, quand Arnaud m'a dit qu'il allait passer l'examen pour être commissaire et que peut-être il serait muté à perpète, ce n'est pas évident. Mais j'ai prié, Seigneur, que ta volonté soit faite, qu'il rentre dans ce à quoi tu l'appelles. Ça m'arrachait la langue, hein, mais bon. Il faut être honnête devant Dieu. Ce qui est important, c'est qu'il rentre dans son ministère et pas qu'il serve mon Église. Et les conseils de ces fameux globules rouges ne sont pas du tout le fruit de la sagesse humaine, mais vraiment de la lecture de la parole, de l'imprégnation de la parole de Dieu. Et j'ai remarqué que dans l'Église, ce sont souvent les gens qui connaissent le mieux leur Bible et qui ont une bonne écoute du Seigneur, qui vont vous transmettre des paroles qui font tilt. Pour certains, ils peuvent même recevoir une parole précise ou même une image. Alors là, je m'aventure sur un terrain un peu plus délicat, mais une image qui va aider le message et une vision parfois. Mais ce que j'aime chez les gens qui pratiquent ça dans l'Église, et il y en a, ils le font avec énormément de prudence et d'humilité. C'est pour ça que je ne les nommerai pas. Et sans aucun jugement. Ce sont des ministères extrêmement discrets, mais qui sont une aide précieuse pour les responsables de l'Église. Des gens qui reçoivent de Dieu des choses précises, sans aucun jugement, mais qui peuvent aussi nous mettre en garde. J'aurai un exemple récent, d'ailleurs, où quelqu'un dans l'Église avait reçu une vision. J'ai rien compris sur le coup. Elle non plus. Mais elle avait une personne précise. Et l'après-midi même, je rencontre cette personne dans un magasin, qui n'arrivait jamais. Et je sentais le Seigneur qui me disait, vas-y, dis-lui quelque chose. Et elle était pressée, moi aussi. Donc bon, j'ai laissé tomber. Mais après, le Seigneur m'a dit, mais là, non, là, ça ne va pas. Pourquoi tu n'as pas écouté? Pourquoi tu... Bon, et j'ai prié dès que j'ai pu, à la sortie d'un culte, je suis allée voir cette personne. Je dis, je suis désolée. Je n'ai pas obéi à Dieu, mais voilà ce qu'on avait reçu. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais visiblement, le Seigneur pense à toi. Tu as certainement passé par un moment difficile, et voilà, c'était vrai. Pardon, pardon Seigneur. Et vous savez, des visions comme ça, ça peut être très utile. À partir du moment où c'est fait dans le respect des personnes, sans aucun jugement et dans l'humilité. Et j'encourage vraiment ces gens, et il y en a... quelques-uns dans l'Église, à continuer comme ça. C'est extrêmement précieux. Soyez encouragés. Ne vous lassez pas de faire le bien. Même si parfois c'est un peu difficile parce qu'il y a des visions ou des images qui sont... Waouh. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la personne qui en a besoin, elle le comprenne. Nous, c'est pas important. Donc le cœur de Dieu pour l'Église, c'est que vous exprimiez ce que le Seigneur a mis sur votre cœur pour le bien commun. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime penser que le Seigneur regarde et se dit « ce sont bien mes enfants ». Et ce que j'aime à penser aussi, c'est que les Seigneurs se disent par moments « waouh, il ou elle a dit exactement ce que j'avais envie de dire à cette personne ». Ah, oh, ça c'est le summum. Et je pense que lui, il est ravi. Et là, on a le sentiment d'une mission accomplie, la joie d'avoir transmis la vie du Seigneur, fameux globule rouge. Dieu veut vous encourager à entrer ou à continuer dans ce ministère caché, à condition qu'ils soient toujours faits dans l'humilité, dans la soumission à Dieu. Sentir vers qui Dieu nous conduit, quel type d'encouragement donner. Et ça, c'est quelquefois un peu difficile. Parfois, je me dis, mais de quoi elle a besoin cette personne? Quel type d'encouragement? Parce qu'il y a différentes sortes d'encouragement. Il y a l'encouragement un peu pio derrière pour, voilà, dire, allez, te laisse pas aller. Mais il y a aussi l'encouragement plein d'amour, de soins, de compassion, etc. Et tout ça, c'est le Seigneur qui va le donner. Comment prier? Quand et comment donner une parole de la part de Dieu? Le secret, c'est toujours l'humilité. Et pour ceux qui ont ce ministère, je vous recommande franchement de toujours dire, j'ai l'impression que Dieu me montre. Ne prenez pas de risques. Et ne permettez pas à l'ennemi de déconsidérer les dons de Dieu. Si vous aventurez en disant « l'Éternel, Dieu m'a dit que tu » et que ce n'est pas vrai, qui est-ce qui est déconsidéré? C'est le Seigneur et son message. Donc attention, soyons, bon nous ce n'est pas très grave, mais c'est le Seigneur. Et donc, ajoutez toujours « j'ai l'impression que Dieu me dit ». C'est quelque chose que j'aimais beaucoup chez Yves Cornaz, qui était à l'origine de nos églises. Toujours, j'ai l'impression que Dieu me dit. Je pense que, je crois que. Et puis, après, les gens, eh ben, c'est eux qui disent si c'est, ça répond ou pas. Parce qu'il y a un verset quand même qui est capital dans la Bible. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est Jacques 4, 6 ou 1 Pierre 5, 5, c'est le même. Nous ne sommes que des canaux humains. On peut se tromper et on a le droit à l'erreur. On peut mal entendre, on peut mal transmettre. Mais restons proches du Seigneur et dans le respect des autres. Surtout au niveau de ses révélations, hein, c'est très important. Mais que soyez encouragés à continuer et à donner ce que le Seigneur vous donne dans cet esprit-là, parce que c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour la vie de l'Église. Et cette même attitude dans l'évangélisation aussi fera de nous des ambassadeurs efficaces. Ah, il y a un autre ministère caché qui est aussi extrêmement précieux dans l'Église, ce sont les ouvriers de paix. J'ai pensé aux béatitudes, heureux ceux qui procurent la paix. Et je vous ai donné l'exemple la semaine dernière de mes parents qui, dans les conflits de l'Église, ont été des gens, j'ai eu cet exemple sous les yeux pendant ça, a duré quand même 2-3 ans, de gens qui procurent la paix. J'ai été marquée par leur ministère, même s'ils n'avaient aucun titre et même si, comme je disais dimanche dernier, mon père se considérait comme un petit chrétien, toute sa vie. Mais ça a été des gens qui procuraient la paix. Alors la paix avec Dieu, dans le cadre de l'évangélisation, capital. La paix avec Dieu, dans le cadre de la relation d'aide de la maison d'Élie, bien sûr, ce sont des ouvriers de paix, les gens qui travaillent dans la maison d'Élie. La paix aussi entre les humains. Et la paix aussi par rapport aux tactiques de l'ennemi. C'est-à-dire, en dévoilant les tactiques de l'ennemi, il nous donne la victoire et donc la paix. Au lieu que ce soit la guerre. Les tactiques de l'ennemi, c'est de nous user par des guerres constantes, de toutes sortes, dans la famille, dans le travail, vous avez bien remarqué, il a une, c'est un peu comme le papier de verre. Hein. Si vous prenez un bloc de bois et vous passez du papier de verre longtemps dessus, vous allez finir par le réduire. Hein. Je ne sais pas si, moi, c'est une image idiote, mais quand on allait chez le boucher, autrefois, vous savez, ils ont ce gros billot là de bois. Et j'étais effarée dans ma commune. Il restait plus que ça de son truc. Sur les côtés, c'était comme ça. Et puis au milieu, c'était comme ça. Et je pense que l'ennemi, il est un petit peu comme ça. Hein, à l'air de rien, il nous use, il nous use, il nous use, il nous use. Et les ouvriers de paix, ils font le contraire. Ils construisent, ils protègent. Et ces ouvriers de paix, ils sont un peu comme les globules blancs. Vous savez, faudrait que Samuel me repasse cette vidéo où on voit les globules blancs qui attrapent les virus, qui les mangent. Enfin, c'est filmé, c'est pas inventé, hein. Et c'est magnifique. Eux, ils ont ajouté un bruitage. Et... voilà. Mais ils s'attaquent au virus que l'ennemi installe pour casser la santé de l'Église. Et les globules blancs, ils sont là, eux, pour restaurer. Et ils sont à la chasse au virus. On les aide parfois avec des médicaments, mais... Ces ouvriers de paix, ils ne cherchent pas à prendre parti rationnellement dans les conflits. Moi, je l'ai vu avec mes parents. Pour celui qui leur semble le plus juste ou parfois le plus faible, ce qui est très, très courant. Mais ils s'inspirent des critères de la parole de Dieu. Mes parents citaient toujours les paroles de la Bible en face de ces conflits-là. Ils placent chacun devant sa responsabilité face à Dieu. Et le but, c'est construire l'Église. La protéger, la restaurer. Protéger chacun aussi, mais dans l'optique de la parole de Dieu. Ces ouvriers de paix peuvent parfois discerner un virus, un danger qui guette l'Église. Et lorsqu'ils préviennent les leaders, alors on peut prier et éviter des guerres inutiles. Et là, merci Seigneur, il y a de ces globules blancs dans l'Église. Ils sont capables de prévenir, de dire « Attention, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il y a ce danger qui guette, il y a ce danger qui guette ». On va prier et avoir la victoire. C'était un peu l'objet d'ailleurs de ce rêve que j'ai eu. Moi, ça ne m'arrive pas souvent. Si leur discernement leur permet de dévoiler les tactiques de l'ennemi, ils réagissent par l'esprit d'Éphésiens 6. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Hein, c'est important. Pas contre les gens, mais l'esprit qui manipule derrière. Et jamais par le jugement ou la critique. Devant une situation de conflit, ce sont des gens qui vont prêcher la paix et le pardon. Relever les qualités des gens au lieu de juger leurs défauts. Vous savez, c'est un sport national en France de relever tout ce qui ne va pas. Comme me disait quelqu'un, je ne sais plus qui, dans l'avion, on repère tout de suite les Français, c'est ceux qui râlent. Ils ne vont pas se dire, c'est pas merveilleux quand même d'avoir des avions pour au lieu d'un voyage qui durait 2 mois en bateau. Voilà, maintenant on peut... Non, jamais vous entendrez un Français dire ça. Mais c'est quand même terrible, j'avais réservé ma place à cet endroit et qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, et ça râle. Et on attend trop longtemps. J'ai vu d'ailleurs qu'un directeur de compagnie est allé dans les files d'attente et il a attendu 1h30, bien fait pour lui. Et il a compris un petit peu ce que ça voulait dire, les temps d'attente dans les aéroports. C'est bien, ça arrive de temps en temps. Mais voilà. On râle. Et c'est quelquefois plus gratifiant pour notre chair. C'est là qu'on fait la différence entre la chair et l'esprit. Hein, ce qui est gratifiant pour notre chair, de râler. De dire, ah, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et bon, la plupart, c'est vrai. Parce qu'imaginez qu'on est humain et qu'on a des défauts. On ne peut pas le dire aux autres. Eh oui, on est humain. Et donc, c'est facile de faire la liste. Et il y en a même, elle ne sera jamais exhaustive, hein. Mais les artisans de paix, comme la Bible les appelle, les ouvriers de paix ou les artisans de paix, ils vont plutôt relever les qualités des gens, sans juger la personne. Et qu'est-ce que j'ai aimé de Jackie Ford quand on lui a posé la question? André aimait bien lui poser des questions. Et il lui avait posé des questions sur un grand, comment on peut l'appeler, un enseignant de la Bible qui a... MacArthur. Et il lui a dit, mais comment vous gérez? Parce qu'il est anti-charismatique à tout craint, cet homme. Et il a dit, ah, j'ai trop aimé sa réponse. Je mange avec lui une fois par mois, parce qu'il me transmet un amour pour la parole de Dieu qui est absolument fantastique. Il aime la Bible, il aime la parole de Dieu, il la décortique, il l'explique, il en vit, c'est une merveille, moi ça me fait du bien. Mais bon, à côté de ça, pour ce qui est des charismes, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. C'est tout. C'est mon ami. Il me fait du bien et il ne regardait que le bon côté du gars. Hein. Moi, je dois reconnaître que parfois, il y a certaines interventions sur Internet où j'éteins parce que je ne veux pas le juger. Mais il est un peu dur hein, sur les charismes. Mais c'est vrai que quand il parle de la parole de Dieu, il est rempli d'enthousiasme. Et il ne voyait que cet aspect. En disant, bah, pour le reste, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. J'avais beaucoup aimé aussi cet archéologue chrétien qu'on avait invité il y a très longtemps, qui a écrit le livre « C'est Pierre qui parle ». Et quelqu'un lui avait posé une question sur un archéologue qui cassait vraiment la Bible. Et sa réponse m'avait plu. Il avait dit « C'est un ami. Normalement, c'est un assez bon archéologue, oui, je le respecte. Mais dans ce domaine, il a tort. Et j'avais trop aimé le « il a tort ». Voilà. Pas de jugement, pas de critique, simplement les faits. Il a tort. Bon. Alors évidemment, mettre de l'huile sur le feu, c'est quelquefois amusant. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des pompiers qui sont pyromanes. Eh oui. Mettre de l'huile sur le feu, ça peut paraître amusant, mais c'est complètement destructeur. Dans n'importe quelle société, que ce soit une association de foot, une église ou une famille, parfois il y a un côté un peu « waouh ». On met un peu d'huile sur le feu, là, on fait sortir voilà, ce qu'il y a dans l'abcès, mais c'est destructeur. Et que ce soit dans une association ou dans une église, c'est grave, sauf que dans l'église, c'est encore plus grave, parce qu'une église, c'est le corps de Christ, le corps local, et c'est là où doit régner l'Esprit de Dieu. Et j'avais cette image, ça m'arrive de temps en temps, une colombe, je ne sais pas si vous avez vu une colombe ou une tourterelle, la Bible souvent parle de colombe, elle ne va pas poser ses pattes dans un endroit agité. Elle va attendre que ce soit bien calme. Les pigeons sont un peu fous de ce côté, mais les colombes, non. Et une colombe ne va pas poser ses pattes sur un champ de bataille. Et si on veut que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous, il ne faut pas être un champ de bataille. Dans nos familles, au travail, c'est difficile, hein, au travail, à l'école, dans n'importe quoi. Depuis sa création, l'Église doit beaucoup de sa vie et de sa continuité à ses ministères de paix. Et je crois que Ricardo en a été un en son temps, vous l'avez rencontré. Mais la paix, pas à n'importe quel prix. Et à l'avenir, je crois que ces ouvriers de paix, c'est eux qui vont contribuer à protéger l'Église des attaques destructrices, non pas des hommes, mais de l'ennemi. C'est un travail délicat, parce que ces ouvriers de paix, on l'a vu avec Ricardo d'ailleurs à l'époque, il ne faut pas encourager la colère, pas encourager l'amertume, pas innocenter les coupables, pas minimiser la peine, pas maximiser l'offense. Ils sont sur la corde raide, hein, les ouvriers de paix. Mais c'est un don. C'est un don. Et je crois qu'on doit tous le demander, mais il y a des gens qui sont vraiment dans ce don. Dieu veut encourager, si vous êtes un faiseur de paix, un artisan de paix, comme dit la Bible. Ce n'est pas un ministère facile, parce que les deux extrêmes, c'est le laxisme et de l'autre côté, le légalisme. Donc on peut aller d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas un ministère facile, mais l'Esprit de Dieu peut vous conduire et vous inspirer les mots justes. Soyons des artisans de paix. Comme vous le voyez, ces ministères, peu ou pas visibles, c'est eux qui assurent la vie de l'Église, la vitalité de l'Église locale. La meilleure équipe pastorale ne suffira jamais à faire une Église vivante, chaleureuse, enthousiaste et bienveillante. Il ne faut pas rêver. Ce sont ces ministères-là qui permettront à l'Église d'être vivante. Il ne faut pas l'oublier. Et ce sont des ministères cachés. Pour certains d'entre eux, on ne saura jamais ce qu'ils ont fait. Les catastrophes qu'ils ont pu éviter, les stratégies de l'ennemi qu'ils ont cassées. Mais au ciel, on le saura. Et Dieu le sait. Et il vous encourage, chaque fois que vous allez dans ce sens, que vous prenez des risques pour établir la paix, le Seigneur le sait et il vous récompensera. Et sans ces ministères, l'Église, elle me fait penser à un cadavre. Il peut être beau, vous savez, dans les Américains, ils ont ces fameuses funeral parlors où on met le mort dans une position accueillante, on l'habille tout beau, on le maquille, on le refait à neuf. Et puis, c'est horrible, hein, on prend l'apéritif autour de lui, c'est terrible. Bon, mais oui, mais c'est terrible, les funeral parlors, il y en a vraiment. Mais n'empêche que ça reste un cadavre. Et l'Église peut être comme ça. Sans ses ministères, elle sera comme ça. Et ça ne fait pas envie. Moi, je n'ai pas envie d'aller me promener dans un funeral parlor, même si le cadavre, il est très beau. Sans ces ministères-là, l'Église deviendra épouvantable. Mais grâce à ces ministères donnés par l'Esprit de Dieu, c'est à cause d'eux que l'Église de Jésus-Christ a passé les siècles. Réfléchissez, 2000 ans. Les persécutions, les périodes sombres, comme le Moyen-Âge, qui était vraiment dur pour l'Église. Les périodes d'hérésie. Pourquoi l'Église a survécu? André me dit souvent, mais les gnostiques, ils ont été au bord de casser l'Église dès sa création. Ça, on le voit dans l'histoire. Mais c'est grâce à des ministères comme ça, qui ont été sérieux dans la parole de Dieu, dans la prière, discrets. Ce n'est pas les grands prédicateurs qu'on fait le plus. C'est grâce à eux que l'Église locale ici va survivre, quelles que soient les circonstances. Si tous acceptent de se mettre au service du Seigneur, là où il nous a appelés, ministère caché, un peu visible, très visible, peu importe. C'est vraiment d'obéir au Seigneur. Amen.
Michel vous l'a pas dit, mais son père, c'était comme un globule blanc. C'est vrai que pour certains qui connaissent l'église de Pentecôte, une grande estime pour M. Scott et M. Comment il s'appelle ? Papa Nicole, oui. Voilà. Qui était au démarrage de ce mouvement de Pentecôte. Quand M. Nicole a commencé à se bagarrer avec M. Farina, que c'était la guerre, parce qu'on a parlé de ça pendant des années, ben son père, qui n'a pas pris parti, un jour il a dit, vous savez ce que Dieu pense de vous ? Ah ben, Dieu pourrait vous prendre, mettre sur chacun sur un genou et vous donner la fessée. Il n'avait pas peur, mais c'est vrai. C'était des enfantillages et des gamineries. Mais voilà, il n'a pas pris parti, mais il a dit ce qu'il devait dire. Donc, vous voyez, l'instrument de paix, être des globules rouges, des globules blancs. Nous voulons oxygéner le corps, amen, et nous voulons le défendre contre les guerres. Donc, merci Michel pour ce message que tu as préparé, qui va nous servir aussi dans la suite.